vous avez, bon, ici, le hammam oriental, la boulangerie-pâtisserie orientale par ailleurs. Ah non, mais vous avez mieux que ça, vous avez des librairies islamiques où on vend, par ailleurs, le voile intégral, le niqab. C'est aussi, d'une certaine façon, un appel à s'exclure de la communauté nationale et à adhérer à une pratique plus rigoriste de l'islam. Tout est fait pour ne pas vous mélanger dans la société. Ce communautarisme, il fait mal à la société française parce que ça nourrit, d'une certaine façon, l'islamisme radical.
Un habitant de Roubaix guide les caméras de M6 dans les rues de Roubaix, de sa propre ville. Amorce d'une enquête de près de 2 heures, diffusée dimanche soir sur M6 dans le magazine Zone Interdite. Son titre, face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État. Dans la foulée, sont menacées de mort Ophélie Meunier, présentatrice du programme, désormais sous protection policière, et également Michael Gagnet, sa réalisatrice, et Amine Elbaï, le roubaisien responsable associatif que vous venez d'entendre. Immédiate solidarité des rédactions de Radio France, de BFM, RMC, M6, Le Monde, Le Point et d'autres. Quoi qu'on pense de ce reportage qui agitait depuis plusieurs jours les réseaux et les réseaux sociaux avant sa diffusion, la liberté de questionner, la liberté d'enquêter, la liberté de s'exprimer, la liberté d'informer ne cédera pas à la terreur. La profession est unanime. Nous donnons ce matin la parole à son producteur ainsi qu'à ce témoin, car sa situation soulève la question des effets, parfois vertueux, parfois douloureux, de la médiatisation.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et je suis heureuse de recevoir sur ce plateau Amine Elbaï, bonjour.
Bonjour.
Amine Elbaï, vous êtes juriste de formation, vous allez nous raconter votre parcours. En tout cas, vous avez fait le choix, vous, de médiatiser deux choses. Le départ de votre sœur aînée, radicalisée en Syrie, avec ses enfants. Et puis, votre combat à Roubaix et ailleurs contre toutes les formes de séparatisme. Vous nous raconterez ces choix et ce parcours avant même d'avoir rencontré les caméras de Zone Interdite. Tony Comiti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur de documentaires, vous avez de la bouteille et du métier, comme on dit. Engagez la parole d'un témoin n'importe où en France, n'importe où dans le monde. On va en parler ensemble, c'est une sacrée responsabilité. Un mot d'abord sur ce qui s'est produit immédiatement après la diffusion.
Écoutez, immédiatement après la diffusion, Ophélie Meunier, la présentatrice, vous l'avez dit tout à l'heure, a été menacée de mort. C'est pas anodin, aujourd'hui, d'être menacée de mort. C'est pas anodin de vivre avec une escorte policière, notamment Ophélie qui a des enfants, et Amine aussi. Donc, quand on dit ils sont sous protection policière, mais ça, c'est dur d'être sous protection policière. Il y en a qui vivent avec ça depuis des années. Je parle de Mohamed Sifaoui, journaliste qui est engagé contre l'islam radical, Bernard de la Villardière qui avait un des premiers journalistes à enquêter sur les salafistes.
Journaliste et producteur aussi pour M6.
Richard Malka, avocat, nos confrères avocat de Charlie Hebdo, les survivants de Charlie Hebdo et d'autres journalistes. C'est pas si simple que ça. On dit ils sont sous protection policière. Ben oui, mais ça change la vie complètement. Ça veut dire que on a peur avant de sortir de chez soi. On a peur pour sa famille. Je vois l'imam de Drancy qui lui a dû exfiltrer toute sa famille. Il n'a pas vu ses enfants depuis. C'est ça, être sous protection policière. C'est ça, être menacé de mort aujourd'hui.
Merci de cette précision. Et vous avez raison, ça n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de très concret dans la vie de quelqu'un. Amine Elbaï, vous êtes à l'amorce de ce reportage. Vous guidez les caméras de M6 dans les rues de Roubaix. Et puis, on revient sur les causes qui vous animent. On revient d'abord sur votre histoire. C'est-à-dire que ça a touché votre famille en son sein.
Oui, bonjour d'abord. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Aujourd'hui, moi j'ai voulu prendre la parole pour non plus être dans le constat, mais pour démontrer ce qui aurait dû être fait. Moi je m'étonne de notre capacité collective à nous émouvoir d'une situation que nous aurions déjà pu anticiper depuis bien longtemps. Il y a 6 ans, j'écrivais une tribune dans les colonnes du journal Le Figaro pour témoigner à la fois sur les conditions du départ de ma propre sœur qui s'est radicalisée à Roubaix et qui est partie en Syrie. Et j'ai voulu à travers cette tribune dire qu'il fallait réagir, il fallait d'abord prévenir ces situations et on aurait pu le faire en réoccupant l'espace public et en faisant en sorte que l'État soit présent dans la un certain nombre de territoires abandonnés, territoires perdus de la République. Aujourd'hui, à travers ce témoignage, moi j'ai voulu démontrer justement à la fois ce double constat, le constat de l'inaction de l'État et de l'inaction de la classe politique en général, de droite comme de gauche, des élus locaux comme des représentants et des membres du gouvernement, mais aussi démontrer que là où la République a reculé, eh bien le communautarisme s'est installé. Et je trouve qu'il y a une forme de renoncement collectif dans la société, parce qu'il y a une forme aussi, de désaveu. La société aujourd'hui, elle est marquée par un constat terrible, des tensions qui sont énormes entre les individus. Et moi je dis très sincèrement que nous devons prendre la parole. Moi, j'ai voulu témoigner pour dire que si nous ne réagissons pas sur ce sujet, si nous acceptons cette forme de renoncement, alors nous reculons sur nos valeurs et finalement, les ennemis de la République auront gagné.
Alors, prendre la parole, Amine Elbaï, vous l'avez fait déjà il y a 6 ans au moment où votre sœur part en Syrie avec ses enfants, c'est-à-dire que ça concerne aussi vos neveux. À partir de quand vous avez senti que c'était difficile de prendre la parole sur ces sujets, voire que c'était dangereux ?
Moi, j'ai senti que c'était dangereux de prendre la parole sur ces sujets dès lors où, à partir du moment où finalement, j'ai été d'une certaine façon désavoué par le silence des élus. Moi, ce que j'ai fait, notamment sur cette affaire, c'est que j'avais écrit justement aux représentants du peuple, c'est-à-dire à nos élus. J'avais écrit moi au maire de ma commune pour lui dire « Monsieur le maire, j'ai un doute sur la situation d'une association que vous subventionnez. J'ai un doute parce que j'ai entendu des choses, parce que plusieurs personnes ont dit que, mais aussi parce que plusieurs éléments démontrent que. » Et j'avais pu démontrer notamment que, sous prétexte de cours de langue arabe, il y avait aussi des cours religieux. Et moi, ce qui m'inquiétait, c'était pas tant les cours religieux, c'était le fait que l'État et que l'argent public subventionnent des cours religieux au mépris de la laïcité.
Alors, inaction des pouvoirs publics, mais action des médias. C'est-à-dire que votre relais, c'est un média local, c'est la Voix du Nord, à ce moment-là.
C'est la Voix du Nord.
C'est la Voix du Nord qui enquête.
Mais c'est non seulement la Voix
puisque
du Nord...
Puisque le reportage de Zone ouais. Interdite reprend l'enquête de la Voix du Nord,
absolument.
Interroge le journaliste de la Voix du Nord, et la façon dont l'affaire s'est résolue.
Et je vous le dis, vous avez raison, ce combat, c'est d'abord le combat de la liberté de la presse. Je vous le dis, c'est grâce à la presse locale qu'un certain nombre de pièces ont pu être dévoilées. Et vous savez, la presse bénéficie d'un certain nombre de garanties, notamment le secret des sources, que oui. Les citoyens comme moi n'ont pas. Et nous, nous exposons à un double danger, un danger d'abord de menace, mais aussi un risque juridique. On peut être attaqué à tout moment, alors que, évidemment, l'espace qui est réservé aux journalistes et l'espace qui est réservé pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression a permis justement de révéler au grand jour un certain nombre de pratiques inacceptables. Moi, je veux vraiment saluer aujourd'hui le travail remarquable de M. Bruno Renaud, qui est journaliste à La Voix du Nord, mais aussi de Mickaël Gagné, réalisatrice du reportage pour Zone Interdite, et puis remercier aussi Monsieur Comiti, parce que grâce à vous, et puis grâce aussi au travail qui a été engagé par la presse, on a pu justement avancer, passer un cap dans la société. Il y a une forme de renoncement. Il y a 6 ans, nous étions tous Charlie, tous pour la liberté d'expression, et aujourd'hui, j'ai l'impression aussi, et je le dis sans heurter personne, qu'il y a aussi cet effet pas de vague qui revient dans la société.
C'est la première fois que vous êtes menacé de mort ?
C'est la première fois que je suis menacé de mort. Et vous savez, même si je suis menacé, je n'ai pas l'intention de me taire. Moi, j'ai connu des choses beaucoup plus douloureuses, avec notamment le départ de ma sœur et sa radicalisation, alors que je l'avais moi-même signalé, par exemple, vous savez, à ce numéro vert, Stop Djihadisme. Et malgré
ces
signalements...
Vous en aviez parlé aussi dans une émission de France 2, l'après-midi, chez Faustine Bollard, dans Ça commence aujourd'hui. Vous aviez donné votre témoignage, offert votre visage, raconté l'histoire de votre famille.
Oui, tout à fait. J'avais à la fois alerté sur les conditions de son départ et vous dire aussi que le terreau de la radicalisation existe par l'inaction d'État, par l'installation d'un certain communautarisme. Et donc, justement, moi, je me sens aujourd'hui responsable, en prenant la parole, responsable de l'impact que je peux avoir sur les autres. Et je me dis toujours que quand je dénonce l'islamisme, je dénonce une idéologie qui prend en otage plus de 4 millions de musulmans. Et malheureusement, il y a une forme de renoncement dans cette société, et je vous le dis très sincèrement, il est très important de mener ce combat aussi avec notamment les musulmans qui ont écrit, qui d'ailleurs, pour une bonne partie oui. Des musulmans de ce pays, ont écrit une tribune hier dans Libération.
Oui. Dans le monde.
Dans le monde.
Ouais.
Dans le monde.
Tony Comiti.
Tout à fait, la solidarité de nos confrères nous a beaucoup touchés. Mais hier, il y a eu une tribune dans le monde. Nous, musulmans de France, soutenons l'émission, soutenons les gens qui sont menacés.
Et tenons absolument à faire la différence entre
absolument. Et ça, c'est pour nous, c'est, j'ai l'impression qu'on a fait un peu bouger les choses, et ça, c'est important. Maintenant, pour la protection des témoins,
oui.
Ben écoutez, c'est toujours très compliqué, que ce soit pour Amine. Alors, si vous voulez, avant de lancer avec Michaël Gagné, la réalisatrice, un long documentaire d'investigation, on fait pas ça comme ça. D'abord, on a des échanges importants, longs, avec la chaîne. On ne veut pas rentrer dans la carrière. Comment est-ce qu'on va procéder ? Il faut d'abord qu'on ait des témoins, et des témoins qui sont aussi de musulmans. Voilà, c'était ça un peu au débat, c'est-à-dire ne pas rentrer dans des clichés, ne pas rentrer
ce que vous revendiquez, Amine Elbaï, hein, que ce soit des musulmans qui parlent de leur pratique religieuse et qui parlent de l'évolution de leur religion et de ses dérives.
Oui, je dis qu'on
ne laisse pas ça aux non-musulmans.
Je dis qu'il ne faut pas exclure justement les musulmans de ce combat, et les musulmans de ce pays d'ailleurs sont totalement indignés, choqués par les images.
Tony Comiti.
Tout à fait. Ouais. Donc sur la protection des témoins, alors par exemple là, dans ce documentaire d'investigation, il y a plusieurs méthodes. On a montré les images, l'interview que nous avons fait, on lui a montré pour savoir s'il était décidé vraiment à témoigner à visage découvert. Parce que là, il est menacé de mort, quand même. Mm-hmm. Donc, c'est son engagement, c'est sa responsabilité, mais c'est la nôtre aussi. Donc, on lui a montré les images. Comme avec les renseignements territoriaux, qui nous ont aidés aussi à faire ce film, on leur a montré les images, parce que c'est la sécurité des policiers, c'est la sécurité aussi des gens qui enquêtent sur le terrorisme et sur les séparatistes islamistes. C'est très important, je vais vous citer juste un cas. Alors, évidemment, on n'a pas montrer le documentaire au service des renseignements territoriaux, mais uniquement la partie qui les concerne sur une enquête qu'ils faisaient à Marseille, d'accord ? Et on n'avait pas vu, nous, un petit détail, c'est qu'un des policiers qui est en planque, qui est dans la voiture, il y a son téléphone qui sonne. Mm-hmm. Mais voilà, et nous n'avions pas vu que le numéro s'affichait. C'était le numéro de sa femme.
Ouais.
C'est eux qui l'ont vu, et évidemment, on l'a flouté. Donc, alors, il y a deux sortes de témoins. Il y a ceux qui parlent à visage découvert, comme vous, comme l'imam de Drancy, voilà, donc ils sont engagés. Il y a ceux qui ne veulent pas témoigner à visage découvert. Alors, à ce moment-là, on assure un floutage et on modifie leur voix.
Mm-hmm. Michaël Gagné, hein, votre réalisatrice, utilise pas mal la caméra cachée dans différentes séquences du film aussi.
Oui. Alors, l'utilisation de la caméra cachée, c'est aussi ça. Ce sont des échanges que nous avons avec la rédaction de Zone Interdite, avec Nicolas Taverneau et ses équipes.
Mm-hmm.
On
c'est
utilise, comme dit Michaël Gagné, en fait, la caméra cachée, c'est le stylo de la presse écrite. Pourquoi ? Parce que nous, en télévision, comme en photo d'ailleurs, on doit amener la preuve par l'image. C'est beaucoup plus simple d'enquêter sans avoir un appareil photo ou une caméra, mais ça devient tellement compliqué aujourd'hui de tourner partout, que ce soit en France, dans nos banlieues. Combien de fois on s'est fait agresser quand on tournait dans les banlieues, ou même dans Paris. Regardez le cas des Gilets jaunes. Ils ont caillassé. Moi, j'ai un de mes reporters, mon fils, qui a pris un pavé visé sur la tête. Heureusement, il était casqué. Il est tombé. C'est un CRS qui l'a sorti et réanimé. Enfin, voilà, ça devient super compliqué aujourd'hui de tourner. Alors, l'utilisation de la caméra cachée, c'est lorsque on n'a pas d'autres choix, d'autres moyens d'informer le public. Parce que dans le cas du documentaire d'investigation que nous avons fait pour Zone Interdite, Michaël Gagné a demandé aux gens, a demandé dans la rue à Roubaix. Attention, il y a eu un amalgame sur Roubaix. C'est un petit secteur du Roubaix qui est concerné. C'est une rue.
Absolument. Et par ailleurs, l'enquête se déplace dans plusieurs plusieurs régions en France.
On va à Marseille, en Seine-Saint-Denis. Voilà.
Un mot quand même pour dire qu'il y a une autre témoin du film, alors qu'il n'est pas menacé de mort, c'est tout à fait autre chose et ça ne disqualifie en rien le film et ça ne justifie en rien les menaces qui ont surgi derrière, qui elle s'est sentie trahie par votre réalisatrice, qui a eu l'impression d'être emmenée dans un projet sur le vivre ensemble et la laïcité, qui pensait qu'on allait lui consacrer un long... Je parle de la jeune étudiante voilée.
Tout à fait.
Bon, qui s'est retrouvée avec 6 minutes, qui ne se reconnaît pas dans ce qu'on a gardé d'elle.
Oui, elle ne se reconnaît pas dans ce... Voilà, donc il n'y a pas eu du tout de trahison. Je pense que Michael Gagné l'a informé. Évidemment, on ne lui a pas dit qu'on allait filmer en caméra cachée dans des restaurants où les femmes doivent être dans des box et dans des écoles où les enfants de 3 ans sont voilés, séparés des garçons. On ne lui a pas dit, bien évidemment. Mmh. Mais enfin bon, elle veut être avocate. La loi en France interdit le voile dans l'espace public, c'est clair.
Voilà, donc il n'y a pas de sujet là-dessus.
Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Cette jeune étudiante disait d'ailleurs face caméra que
elle savait que ça allait être interdit. Bon, voilà.
Elle souhaiterait faire naître un contentieux à l'avenir devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc elle sait déjà que sa situation va poser problème et elle savait parfaitement les risques auxquels elle était exposée. Je ne veux pas m'exprimer évidemment en son nom, mais en acceptant de témoigner face caméra, elle savait parfaitement quelles auraient été les retombées médiatiques. D'autant plus que elle a voulu évidemment s'exprimer au nom des musulmans de ce pays qu'elle ne représente pas. Donc elle sait parfaitement aussi à quoi s'attendre. Et puis, derrière, vous savez, quand on intervient face caméra, on essaye de mesurer l'impact qu'on a envers les autres. On essaye de ne pas mélanger. Moi, je ne mélange personne. Vous savez, j'essaye de ne pas faire d'amalgame. Et je le dis, nous parlons d'une minorité. Nous ne parlons pas de la totalité. La quasi-totalité des musulmans de ce pays aiment la France, respectent les lois de la République. Et vraiment, on a toujours ce sentiment de devoir à chaque fois justifier son action. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai voulu prendre ma plume et écrire dimanche dernier.
Oui, vous avez à nouveau publié une tribune dans le Figaro.
Pour dire justement que nous devons aujourd'hui désigner qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est d'abord l'islamisme. Mais c'est quoi l'islamisme finalement ? C'est un bon vieux slogan politique. Mais personne ne sait, et aucun de nos responsables politiques n'est capable de désigner politiquement et juridiquement ce qu'est un islamiste. Et donc, à partir du moment où nous serons d'accord pour dire et écrire ce qu'est un islamiste, nous pourrons mieux le
montrer et filmer. Puisque vous faites le choix de cette médiatisation face caméra, comme vous le dites.
Mais je fais évidemment le choix de cette médiatisation pour montrer, parce qu'on a l'impression de ne pas être pris au sérieux. Ça fait maintenant des mois et des années que nous alertons et que personne ne nous écoute. Et on le dit, les solutions, elles viennent du terrain.
Alors, ce que je vous propose, c'est que le film, produit par Tony Comiti, L'islam radical, les réponses de l'État, est visible en replay sur la plateforme d'M6 et que vous pouvez tous le regarder, vous faire une idée. Je voulais, en conclusion de cette émission, merci Amine El Bahi d'être venu nous voir, accompagné par vos officiers de sécurité. Je voulais dire un petit mot pour vous, Tony Comiti, parce que vous avez perdu un fils et que c'est une grande tragédie et que ce fils, c'est pas n'importe qui. Il s'appelait Paul Comiti et c'est un grand reporter qui a sillonné tout le Moyen-Orient, qui a filmé toutes les zones de tension, toutes les zones de conflit, et notamment dans un pays qui lui était très cher, l'Afghanistan. Il avait 51 ans. Bonjour Ali Rebehi.
Bonjour Sonia de Villers. Eh bien, merci. Ce matin, nous allons décoller quelques idées reçues sur la gémellité, émission consacrée aux jumeaux. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Vous avez une jumelle, Sonia de Villers?
Non. Bon. Bonne émission.
On sera tous sur votre émission lors de ces passages d'antenne.
Allez.
À tout à l'heure.